Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Le Breton, responsable scientifique à l'Agence spatiale européenne de la mission Cassini-Huygens. La descente dans l'atmosphère de Titan, Jean-Pierre, était le clou de l'expérience Huygens, en tout cas celle qui était la plus attendue, puisque on ne savait pas non plus quelle était la composition, s'il y avait des éclairs d'orage, les températures, les vents, etc. Là, on a bénéficié pendant cette descente d'un grand nombre d'observations. La plupart des appareils qui étaient à bord de Huygens en tant que charge scientifique étaient destinés à l'observation. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de cette atmosphère de Titan? Qu'est-ce qui est peut-être le plus marquant?
Alors, une chose que je dois dire quand même, on avait une bonne idée de la température, puisque en fait, on n'a pas eu de surprise. Au niveau de la température, au niveau de la densité, au niveau de la pression à la surface, c'était des informations que l'on connaissait déjà. Et d'ailleurs, c'était important pour pouvoir concevoir la mission. Il fallait qu'on ait une bonne idée de, disons, de la structure de l'atmosphère. Et là, Huygens, pendant la descente, les mesures qui ont été faites par Huygens ont vraiment confirmé ce que l'on savait au niveau du profil thermique, de la température en fonction de l'altitude, de la pression. Alors, au niveau de la composition, alors on savait qu'il y avait du méthane. Et bon, Huygens nous a permis de mieux quantifier la quantité de méthane dans l'atmosphère. Et on voit que le méthane, qui est environ 1,5% dans la haute atmosphère, au-dessus de la tropopause, commence à augmenter. Et à la surface, c'est environ 5% de l'atmosphère gazeuse et du méthane. Et au niveau des vents, alors là, on a eu énormément de surprises. On s'attendait à avoir des vents violents. On a eu des vents violents, mais on a rencontré plusieurs couches de vents assez inattendues dans la très haute atmosphère. Et puis, près de la surface, les vents ont changé de direction. Et ça, ce n'était pas attendu. Mais bon, on avait des instruments à bord pour nous permettre de bien caractériser, entre autres, les vents.
Si on fait un peu de planétologie comparée en regardant l'atmosphère de la Terre et celle de Titan, on peut parler d'une atmosphère. Le plus important, c'est les 10 derniers kilomètres au-dessus où commence l'atmosphère. Enfin, à quoi ça ressemble?
Alors, ce qu'on appelle le profil thermique de l'atmosphère de la Terre et de Titan sont en effet très semblables. Alors, l'atmosphère de la Terre, la couche la plus importante, c'est ce qu'on appelle la troposphère, en dessous de la tropopause, qui est environ 12 km sur Terre, alors que sur Titan, elle est beaucoup plus haute. La tropopause est à 45 km. Alors, c'est l'endroit le plus froid. Et ensuite, sur Titan, comme sur Terre, on a un petit réchauffement dû à l'effet de serre. Alors, il y a en effet sur Titan un effet de serre dû au méthane, cette fois-ci, qui est similaire, semblable à l'effet de serre qui existe sur Terre.
À moins 130, ça ne doit pas se sentir beaucoup.
À moins 180.
Moins 180, ça
en fait, la tropopause est à moins 200 degrés.
Ah oui.
Et la surface est à moins 180 degrés. Donc, il y a un réchauffement en fait, de 15 degrés dû à un effet de serre. Alors ça, c'est important parce que ça nous permet d'étudier dans un monde très différent de la Terre, dans des conditions très différentes, un phénomène qu'on a besoin de mieux comprendre, l'effet de serre. Et peut-être qu'en l'étudiant sur Titan, eh bien, on apprendra des choses qui nous permettront de mieux comprendre l'effet de serre sur Terre. Et ça, c'est l'un des buts de l'exploration des autres planètes, en quelque sorte. C'est de s'éloigner un peu de la Terre pour aller voir ce qui se passe sur d'autres planètes et de pouvoir appliquer ce que l'on apprend sur Terre pour mieux comprendre comment la Terre va évoluer.
Là, il y a du recul. Hein.
Là, on a du recul.
Une des énigmes, un des mystères, c'était celui du méthane. On sait que le méthane, l'état naturel, finalement, est dissocié assez rapidement, une vingtaine de millions d'années, si mes souvenirs sont bons, par le soleil, en fait, les rayons solaires. Or, une présence de, vous dites, à peu près 5% de méthane dans les basses couches de l'atmosphère de Titan signifie qu'il y a un renouvellement perpétuel de l'émission de méthane. Sait-on d'où vient le méthane de Titan ?
On a quelques idées maintenant, mais c'est vrai que ça reste encore la grande question. Alors, on sait que le méthane est recyclé puisque le méthane s'évapore. On a maintenant découvert des lacs de méthane, donc il y a un cycle d'évaporation et de condensation de pluie comme sur Terre. Et puis aussi, le méthane coule dans des rivières. On l'a vu.
Excusez-moi, mais ça ressemble à quoi le méthane? On n'a pas de rivière de méthane sur Terre. On n'a pas de lac de méthane. Ça ressemble à de l'eau.
À mon avis, ça ressemble à de l'eau. Oui, si le méthane est pur, ça doit être relativement transparent. Alors, mais bon, le cycle du méthane semble très compliqué. Il semble qu'on puisse expliquer la présence aussi importante de méthane dans l'atmosphère de Titan qu'il faille invoquer une autre source de méthane, parce que le recyclage dû à l'évaporation n'est pas suffisant. Alors, le méthane, l'autre source possible, c'est une source intérieure à l'intérieur de la surface de Titan. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont émises, mais pour l'instant, on n'est pas encore capable de dire de façon certaine comment le méthane est fabriqué à l'intérieur de Titan et comment le méthane ressurgit de l'intérieur et participe au remplissage, en quelque sorte, de l'atmosphère de façon continue.
Même s'il y a de beaux scénarios, parce qu'on peut lire dans la littérature scientifique, et là je pense aux travaux de chercheurs français comme Gabriel Toby et Christophe Sautin du laboratoire de planétologie de Nantes, qui reconstitue, alors à travers les observations de Cassini et de Huygens, essaie de reconstituer les 4 milliards d'années d'évolution d'un objet comme Titan, et imagine que la source méthanière, elle est d'abord du centre de Titan, de ce cœur, et puis par des transports réguliers, il y a des phases dans l'histoire de Titan, en tout cas leur description, là je renverrai plutôt aux publications en octobre 2006 dans Ciel et Espace, où on avait publié un papier sur la question, mais qui racontait une première histoire de Titan s'appuyant sur vos observations. Vous avez suivi ça?
Oui, alors ils invoquent dans leur modèle, dans leur publication, trois épisodes dans le cycle de production du méthane. Alors, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je voudrais dire qu'ils peuvent invoquer ceci grâce, c'est vrai, aux observations de Cassini-Huygens, mais je voudrais aussi associer le travail des chercheurs de laboratoire, parce qu'en laboratoire, et à Nantes en particulier, mais en France, dans d'autres laboratoires comme à Grenoble, il y a énormément de travaux qui sont faits pour essayer de compléter ce que les observations de Cassini-Huygens nous donnent, parce que c'est important de pouvoir reproduire certains des phénomènes que l'on a observés, soit à la surface, soit à l'intérieur, pour mieux comprendre, la formation, l'évolution de Titan. Donc je voudrais ici insister sur le travail important, parfois un peu moins connu, que les chercheurs de laboratoire font. Et ils participent vraiment à l'exploration de Titan comme Cassini-Huygens. Mais c'est du travail de laboratoire qui est très important. Et à Nantes, ce sont des spécialistes, entre autres, des glaces à haute pression.
Vous ramenez des indices et eux prennent ces indices et essaient de les interpréter, de mettre une histoire en scène.
Voilà, et même parfois, ils essaient de reproduire ce qu'on a observé. Parce que je vais prendre l'exemple dans un autre laboratoire à Grenoble. Huygens a fait un certain nombre d'observations à la surface. Et pour l'instant, on n'est pas capable d'interpréter. Parce que les observations qui ont été faites ne peuvent pas être reproduites à partir de matériaux qu'on peut refaire en laboratoire. Donc il manque un indice. Alors ils sont en train d'essayer de retrouver, de chercher et de trouver un indice. Alors ils font des essais, ils font un peu leur soupe sans doute de temps en temps, bon, et ils participent vraiment de façon très active et de façon essentielle à l'interprétation des observations par Cassini-Huygens.
Alors, des indices, vous en collectez toujours, hein, parce que la mission, elle est loin d'être terminée, c'est le moins qu'on puisse dire, même si Huygens est posé à la surface de Titan et inerte aujourd'hui, Cassini continue à passer dessus. Alors, les cartes qu'on peut découvrir d'ailleurs sur les sites internet de l'Agence spatiale européenne montrent d'une façon extraordinaire que petit à petit se dessine une planète, excusez-moi, un satellite, vous l'avez qualifié de planète,
une lune
dynamique, mais surtout avec beaucoup de choses qui intriguent. Alors là, on a découvert récemment, vous le disiez, des lacs plutôt vers les latitudes nord. On parle de mers cachées. On voit des sortes de d'endroits bombés et on parle de cryovolcanisme. Ça se resserre un petit peu au niveau des observations. On a de plus en plus de détails.
Oui, alors je voudrais d'abord dire que c'est vrai que Huygens est inerte depuis 3 ans maintenant, mais en fait, on n'a pas encore interprété toutes les données de Huygens. On continue, le travail des chercheurs continue. Et on essaie aussi d'interpréter à la lumière des observations qui sont faites par Cassini. Alors très récemment, il y a en février 2008, je crois, en février 2008 ou en mars, Cassini a refait un passage radar au-dessus du site d'atterrissage de Huygens. Alors, je n'ai pas encore vu les images radar. On espère voir quelques petits changements, pourquoi pas. S'il y a une grande dynamique, la surface de Titan est très dynamique, donc peut-être qu'on va voir quelques changements par rapport à l'observation faite par Huygens et l'observation faite par le radar 3 ans après. On voit aussi, comme vous l'avez dit, les lacs dans les zones, dans les hautes latitudes nord. Alors, pourquoi les hautes latitudes nord ? Ben, pour 2 raisons. D'une part, la trajectoire de Cassini était telle qu'on observait principalement les latitudes nord. Maintenant, on observe plutôt les latitudes sud. Donc, on a moins d'observations des latitudes sud, mais il semble aussi qu'il y ait moins de lacs aux latitudes sud qu'aux latitudes nord. Alors, il y a sans doute une des raisons, c'est qu'il y aurait un effet saisonnier, puisque pour l'instant, le pôle Nord est plutôt en hiver. Le pôle Sud était en été, en 2004. Lorsque Cassini est arrivé, c'était l'été. On a vu des gros nuages de méthane. Donc peut-être que les lacs en été étaient évaporés au pôle Sud et ils sont en train de se condenser au pôle Nord. Et s'il y a un cycle saisonnier, comme on s'attend à le découvrir, eh bien, au bout de 7 ans, on passera de l'hiver au printemps et puis au pôle sud de l'été à l'automne. Donc, on va pouvoir suivre si Cassini peut survivre, peut continuer à fonctionner. Et pour l'instant, il fonctionne de façon merveilleuse pendant 10 à 15 ans. On pourra suivre l'évolution de ce qui se passe à la surface sur 2 saisons. Et ça serait vraiment formidable.
Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des pluies de méthane qui, parce qu'ils génèrent justement des écoulements au sol, modifieraient les paysages.
Absolument. Et il est maintenant prédit qu'il y a de temps en temps des pluies, et sans doute des pluies très fortes, même des pluies torrentielles qui se passeraient une fois tous les 5 ou 10 ans, peut-être même plus. Vraiment des pluies torrentielles qui sans doute conduisent à des événements catastrophiques au niveau de la surface de Titan et qui doivent refaçonner, qui participent à l'érosion et qui doivent refaçonner de façon importante la surface de Titan. Alors on aimerait bien, si la mission Cassini continue à fonctionner pendant plus de 10 ans, on aimerait bien pouvoir, je ne dirais pas observer l'un de ces événements catastrophiques, mais au moins observer les effets d'un tel événement catastrophique. Et il n'est pas exclu qu'on ait la chance de pouvoir en observer un dans les années à venir.
Pourquoi parle-t-on de cryovolcanisme sur Titan ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, les volcanologues purs et durs sur Terre ont un petit problème parce qu'évidemment le volcanisme sur Terre ou sur le volcanisme sur Titan n'a rien à voir avec le volcanisme sur Terre, mais le mécanisme est un peu le même, sauf que sur Titan c'est surtout de la glace qui est en jeu. Le matériau qui s'échappe de l'intérieur de Titan, c'est de la glace, principalement sans doute de la glace d'eau mélangée à du méthane, sans doute un peu d'ammoniac. Donc le cryovolcanisme, c'est parce que la matière, c'est un volcanisme froid, mais il y a quand même des échauffements qui sont mis en jeu, et la matière est plutôt de la matière glacée que de la matière chaude telle qu'on le voit dans les volcanismes sur Terre. Mais le principe est le même.
Il y a quelque chose de chaud à l'intérieur, il y a un cœur chaud.
Quelque chose de chaud à l'intérieur.
Et,
oui.
Et par contraste, ça fait remonter de la matière.
Remonter de la matière, oui. Alors en fait, en effet, il fait chaud à l'intérieur de Titan et il semble... Alors, la surface de Titan, c'est principalement une couche de glace d'eau. qui est recouvert de matière organique, mais de la glace d'eau. Et sous la couche de glace d'eau, qui pourrait être épaisse de plusieurs dizaines de kilomètres, peut-être même 100 kilomètres, il y a une couche d'eau, une couche d'eau liquide. Alors on parle d'un océan global. En fait, ce serait une couche peut-être de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Donc couche d'eau liquide à l'intérieur de la surface de Titan. Et il y aurait peut-être... au fond de ces océans, au fond de cette couche d'eau liquide, quelques sources chaudes qui pourraient être à l'origine de l'activité volcanique de Titan, de l'activité de cryovolcanisme sur Titan.
C'est drôle, s'il n'y avait pas une atmosphère, on pourrait penser à Europe, un des principaux satellites, enfin le principal satellite de Jupiter. Ce que vous décrivez, c'est-à-dire une couche de glace et puis en dessous un océan.
Alors en fait, la ressemblance avec Europe n'est pas évidente. Mais par contre, il y a un autre satellite autour de Saturne qui ressemble beaucoup plus à Europe que Titan. C'est le satellite Encelade. Alors, un tout petit satellite, lui, 500 km de diamètre, alors que Titan, c'est plus de 5000 km. Un tout petit satellite qui nous montre une activité absolument incroyable et qui aurait, lui aussi, sans doute, une source chaude à l'intérieur qui ferait fondre la glace et il y aurait des poches d'eau liquide. Il y a des indices qui commencent à s'accumuler et Encelade est en train de se révéler, je dirais, comme un petit Europa. Une petite lune, toute petite lune, mais qui semble présenter un intérêt aussi important qu'Europe autour de Jupiter. La ressemblance entre Titan et Europe n'est quand même pas si évidente. Non.
Alors, il faut que vous nous expliquiez une chose qui est un mot, moi personnellement, que je trouve très ambigu et que vous utilisez sur Titan, c'est le mot hydrocarbure. Alors hydrocarbure, pour le commun des mortels, on imagine le prix du pétrole. Hein. Je rappelle qu'il a dépassé en ce mois de mars 2008 plus de 100 dollars le baril. Alors on pouvait voir dans vos publications à l'Agence spatiale européenne, ils ont une réserve considérable d'hydrocarbure, beaucoup plus que sur la Terre. Que signifie hydrocarbure sur Titan ?
Alors, hydrocarbure, c'est carbone, hydrogène. Il y a des molécules d'hydrocarbure, le méthane, un atome de carbone, quatre atomes d'hydrogène, et des molécules complexes qui sont dérivées de la chimie du méthane. Donc il y a des hydrocarbures sur Titan, comme il y a des hydrocarbures sur Terre. Alors la seule différence, c'est que l'origine des hydrocarbures sur Titan est sans doute différente de l'origine des hydrocarbures sur Terre, c'est vrai.
Il n'y a pas eu de forêt. Hein.
Il n'y a pas eu de forêt. Il y a et d'ailleurs, on pense que la preuve, enfin, il y a quelques indices qui nous confirment que l'origine des hydrocarbures de Titan est très différente. Il n'y a pas de vie sur Titan et... Mais bon, il y a quand même une ressemblance. Les hydrocarbures restent des composés à base de carbone et d'hydrogène. Et il y a de vastes réservoirs d'hydrocarbures sur Titan, mais dont l'origine est très différente, c'est vrai.
Et on ne pourrait pas les raffiner pour faire du pétrole.
Mais si, pourquoi pas ? On pourrait les raffiner. Alors là,
Vous êtes sérieux ?
Ah oui, je suis sérieux, absolument. Mais ça coûterait trop cher. Mais bon, si on peut ramener les hydrocarbures qui sont sur Titan, on pourrait se chauffer, parce que ce qu'il y a sur Titan, c'est du gaz naturel. Et si on pouvait le ramener sur Terre, c'est vrai qu'on pourrait aussi se chauffer. Mais là, je ne veux pas qu'on aille se battre pour aller chercher le pétrole sur Titan. Laissons Titan en paix et retournons explorer de nouveau au Titan avec une nouvelle mission.
Allez, on est d'accord. Titan, terre de science. Et
Titan, terre de science, oui. Titan, lune de science.
Lune de science. Lune de science et lune de mystère, parce que aussi dans cette descente atmosphérique, quand Huygens s'est posé à la surface, il y avait plein de nez, plein de choses qui reniflaient cette atmosphère pour essayer de comprendre quelle chimie complexe. Et vous l'avez dit, on était toujours à la recherche de la chimie prébiotique, la façon dont naturellement, pendant des milliards d'années, s'agencent les éléments chimiques pour aboutir à du complexe. Vous nous avez dit qu'on n'avait pas découvert la vie, on entend bien. Est-ce qu'on a quand même, je veux dire, des résultats pour ce que l'on appelle aujourd'hui la bioastronomie ou la recherche de la vie dans l'univers qui permettent, parce qu'on s'est posé sur Titan, de faire une avancée.
Alors en fait, on a tendance à être un peu gourmand quand même, parce que on s'est posé avec Huygens à la surface de Titan, et l'un des instruments qui était conçu pour mesurer la structure et la, disons, la constitution du sol a fonctionné à merveille. Et on a trouvé, on en a déduit qu'on avait atterri sur du sable mouillé. Alors on a en effet un autre instrument, le nez, le renifleur en quelque sorte, l'analyseur chimique, a détecté des vapeurs de méthane. Donc il y avait à la surface de Titan, à l'endroit où on s'est posé, ce sable mouillé, ce sable mouillé de méthane. Et le méthane s'est évaporé, on l'a mesuré, on a mesuré une augmentation importante de méthane gazeux une fois qu'on s'était posé. Alors, l'instrument, cet analyseur chimique, a aussi mesuré beaucoup d'autres choses que ce qu'il a mesuré dans l'atmosphère, mais je ne peux dire pour l'instant que beaucoup d'autres choses, parce que l'instrument n'était pas conçu en fait pour faire une analyse, pour prélever un échantillon du sol et en faire une analyse détaillée. Alors, on a des mesures, et là je voudrais encore faire référence aux travaux de laboratoire aux États-Unis principalement, mais aussi en France, en particulier à Créteil, et où on essaie de reproduire ce qu'on a observé pour essayer d'interpréter ces mesures. Et je me répète, parce que l'instrument n'était pas conçu pour faire une analyse aussi complexe. Mais il y a des choses intéressantes. Alors, d'ici quelques mois, peut-être dans un an ou deux, je ne sais pas, on aura un peu plus d'informations sur ce que cet instrument a réussi, je dirais presque, à voler à la surface de Titan. Et il y a, à l'évidence, des informations très, très intéressantes qui vont ressortir de cette analyse une fois qu'elle sera terminée. Mais le travail est encore en cours pour l'instant.
Il faut du temps pour dépouiller.
Il faut du temps. Et l'autre instrument, c'est la caméra. La caméra, elle a vu une petite lampe. Alors, la lampe, ce n'était pas pour illuminer la surface, pour prendre des images. Il y avait assez de lumière avec le soleil. Mais c'était pour éclairer la surface avec une intensité suffisamment forte et uniforme dans toute la gamme de longueur d'onde de la caméra, et mesurer la réflectivité de la surface et regarder comment certaines des longueurs d'onde, des couleurs étaient absorbées, ce qui permettait d'identifier certains composés, la composition de la surface. Et pour l'instant, il y a quelques éléments qui manquent pour reconstituer le puzzle qui était observé, disons, dans le spectre de la caméra. Il y a pour l'instant quelque chose qu'on ne trouve pas. Et c'est le travail qui est fait en laboratoire, alors je l'ai déjà dit, à Grenoble, pour essayer de reproduire ce que la caméra a observé dans le spectre du sol illuminé par la lampe. Donc il y a encore beaucoup de travail en cours, et ça c'est intéressant en fait. C'est une mission qui va donner du travail à de nombreux chercheurs. Et d'ailleurs, je dois dire que des jeunes chercheurs ont vraiment eu la chance, il y a quelques années, donc, de commencer une thèse lorsque Huygens et Cassini étaient en approche de Titan. Et maintenant, ils sont aux anges, en quelque sorte, parce qu'ils ont des données absolument remarquables, et ils ont du travail pour des années et des années. Et il y a du travail pour d'autres nouveaux chercheurs. Donc, j'espère que cette mission va susciter quelques vocations, peut-être même beaucoup de vocations, et qu'une communauté de planétologie va vraiment éclore à partir de ces résultats.